Podiaout, ficelle, podiaout, ficelle.
Bienvenue dans ce deuxième épisode. Je l'ai appelé le chemin des écoliers.
Ficelle, podiaout, ficelle, podiaout, ficelle.
Il y a deux portails pour pénétrer dans la propriété. Le premier donne sur un sentier fait de gravier. Il mène au garage. Le deuxième donne directement sur la maison. Tu peux voir une pelouse ainsi qu'une façade de briques rouges. Le toit est fait d'ardoise. Tu franchis le portail composé de lattes de bois peintes en blanc. Un chien aboie et vient à ta rencontre. Tu n'es pas encore sur la pelouse. Le sol est fait de briques, de même que le sentier qui fait la jonction entre le portail et la porte d'entrée de la maison. Tu continues vers la porte d'entrée. Ton regard se porte vers le côté droit du sentier. En effet, tu contemples, tout en progressant, l'endroit où se finit la maison. Une plante grimpante, remontant le long du coin, se déploie de telle sorte que la porte présente juste à côté s'en trouve surplombée. La fenêtre, un peu plus à gauche, donne, tout comme la porte, sur une grande pièce. Un peu plus loin, après un pan de briques rouges, tu peux voir une porte-fenêtre. Un mince rideau, si la porte-fenêtre est ouverte, réagit doucement. Tout en suivant le sentier de briques rouges, ton regard se porte maintenant sur ce vers quoi tu vas. La porte d'entrée. Sur la moitié supérieure, s'y découpe un quadrillage de verre, transparent. Avant d'entrer, tu dois monter une marche. Un pas de plus, et tu pénètres dans la maison. Tes semelles frôlent un paillasson qui fait toute la largeur de l'entrée. Il est contenu dans un renfoncement au sol. Tu t'essuies les pieds. Face à toi, trois chemins. À droite, jusqu'au plafond, un escalier en bois massif t'amène sous les combles par le moyen d'une porte en bois. Face à toi, si tu regardes au sol, tu vois se déployer un carrelage de couleur rouge sombre. Il t'amène vers une ouverture donnant quelques centimètres plus loin, à une porte. À gauche, un escalier en bois massif de quelques marches t'amène vers une plateforme qui surplombe l'entrée. De là où tu es, tu peux voir une poutre s'y dresser en son centre. Il y a des fenêtres présentant des barreaux, une cheminée en briques est visible. Elle se trouve dans le coin droit de la plateforme. La distance qui sépare le sol du plafond est à peu près la même que la hauteur de la maison. Les murs ont été peints de couleur blanche. Tu empruntes le chemin qui te conduit vers l'ouverture. Pour ce faire, tu dépasses l'escalier. En dessous de celui-ci, il y a une commode sur laquelle est posé un gramophone. Le métal qui le constitue brille. Il semble avoir été bien entretenu. Rien n'indique qu'il fonctionne. À côté du gramophone, une boîte de métal en aluminium. Sa forme est celle d'une maison. Sa surface présente un bas-relief dont l'iconographie a des allures chrétiennes. Tu dépasses la commode. Du même coup, tu dépasses une grande cage à oiseaux blanche. Elle ressemble à une fusée. Puis tu dépasses un porte-manteau. Quelques chapeaux y sont posés. L'un des manteaux semble présenter une doublure d'origine anglaise. L'ouverture est devant toi. Tu t'engages en faisant attention à la marche. Tu ouvres la porte située quelques centimètres plus loin. Ce sont les toilettes. La pièce est relativement étroite, même pour une personne d'un petit gabarit. Les murs sont recouverts d'un papier peint au motif années 30. Il reprend des affiches publicitaires de l'époque, avec notamment un spectacle de music-hall de la Goulue. Au-dessus de la cuvette se trouve une petite fenêtre, une meurtrière d'à peine 45 cm sur 45. Quand tu t'assois sur la cuvette, tu remarques au-dessus de la porte une petite étagère sur laquelle est stockée la réserve de papier hygiénique. Le papier en question n'y est pas présent sous forme de rouleau, mais en petits carrés de feuilles empilées et est installé dans un distributeur. En sortant de cet espace contigu, tu te retrouves devant un couloir assez sombre. Les murs sont blancs, recouverts d'une sorte de plâtre sculpté. Le carrelage au sol est d'un brun assez beau, ancien et chaud. Tu peux désormais aller à droite, ou à gauche. Humant l'air venant de la droite, tu t'y engouffres. Avant d'arriver à la source de l'alléchant fumet, tu passes devant deux portes. Celle de gauche, en bois verni aux serrures et mécanismes en métal sombre, est un placard. Rempli de fourbis, il contient surtout des manteaux, deux vestes en cuir, quelques chapeaux et des chaussures. En bas est rangé le matériel du parfait cireur de souliers. Cirage de différentes couleurs, dont l'odeur assez forte parfume le placard, graisse de phoque, chiffon, aérosol d'imperméabilisant, et l'outil indispensable, à savoir une vieille brosse à dents au poil assoupli et dégarni par le temps. Sur une petite étagère en hauteur, tu trouves une grande boîte métallique. Y est rangé un kit de premiers secours, avec tout ce qu'il faut de bandages, de pansements et d'alcool à 90. La porte de droite a quant à elle un vieux parfum de naphtaline. Mais tu continues droit devant toi et ouvres la porte vitrée qui donne sur la cuisine. Tu le vois dans la lumière chaude du soleil. C'est la lumière au bout du tunnel. Il fume une cigarette à la fenêtre. Il t'a entendu rentrer, mais il n'a pas tout de suite tourné la tête. Mais le temps d'observer cette scène, de t'y plonger, il te regarde, droit dans les yeux. Le vent traverse le saule pleureur à l'extérieur, devant la fenêtre, devant lui. C'est étrange, c'est la saison des fées. Il vient de cirer ses chaussures, mais où va-t-il partir ce soir ? Tu finis par t'asseoir à la table de la cuisine. Tu espères tant qu'il viendra vers toi. Dans la lourdeur de chaque seconde, chaque geste fait naître l'espoir. Mais chaque geste suivant le fait immédiatement s'évanouir. Le téléphone sonne. Il jette sa cigarette. Il quitte la pièce. Le parquet craque sous ses pas, rythmé, élégant. Mais pourquoi restes-tu planté sur cette chaise ? Tu croises les jambes une fois, tu les décroises et attrapes la boîte d'allumettes qui se trouve sur la table. Entends-tu sa conversation au téléphone ? Qui est-ce ? Il parle d'une voix calme, grave. Tu devrais te lever, vraiment. Mais tu restes figé sur cette chaise, devant la fenêtre de la cuisine, dans la lumière du saule pleureur. Il a raccroché. Tu fixes la table comme si la solution allait s'y inscrire d'un moment à l'autre. Il est revenu dans la pièce. Il te regarde. Tu le sens. Mais tu as honte. Tu ne peux pas relever la tête. Tu ne peux pas assumer la lourdeur du message. Son jugement qui va sortir de ses beaux yeux bleus et non de ses lèvres. Tu n'aurais jamais dû. Encore une fois. Mais c'est plus fort que toi. Il allait partir quand il a reçu cet appel. Tu en es sûr maintenant. Il reste planté là, devant la fenêtre. Attendons que tu dises quelque chose. Il aura passé son temps à attendre que des mots sortent de ta bouche, des mots miracles qui auraient tout réglé, tout pardonné. Tu reposes le paquet d'allumettes et regardes autour de toi, toujours tête baissée. Il y a son sac de voyage contre le mur, celui que tu lui avais offert avant que vous ne partiez en week-end la première fois ensemble. Il va partir, comme d'autres avant lui, et tu vas te retrouver seul, parce que c'est tout ce que tu mérites. Tu as disparu 24 heures sans donner de nouvelles. Cet appel qu'il a reçu, c'était probablement quelqu'un qui le rappelait pour lui dire que non, on ne t'avait aperçu nulle part depuis hier matin. Toi, tu sais où tu étais, tu sais ce que tu faisais. Et pas besoin de lui dire, il le sait aussi. Tu relèves la tête doucement, effrayé. Tu ne t'étais pas aperçu que des larmes coulaient sur tes joues. Il t'observe. Sa chemise est impeccable. Son pantalon tombe parfaitement. Ses cheveux sont ramenés en arrière avec soin. Son regard est éteint. Impossible de dire s'il est triste ou en colère. Il ne bouge absolument pas, comme figé dans le contre-jour du soleil mourant. Toi, petite chose assise, le dos courbé, tu ne t'es jamais senti aussi sale, minable et fatigué. Tu attends maintenant avec impatience qu'il prenne son sac et passe cette porte, tant cet instant est insupportable. Il fait un pas vers toi, pose son téléphone sur la table et s'accroupit auprès de toi. Aussi brusquement qu'une gifle, il murmure à ton oreille « Je te pardonne ». Tu te relèves brusquement, le regard encore rempli de larmes. Le temps d'y penser, un instant, une fraction de seconde se passe avant que tu écrases ton poing dans son visage. Il recule de quelques pas et ne comprend pas ton geste. Tu lis dans ses yeux bleus et froids l'incompréhension, la stupeur et la colère. Ces trois sentiments mélangés lui donnent un visage contrit sur lequel commence à apparaître une légère ecchymose. L'air semble figé et la gorge serrée des sentiments contradictoires se bousculent dans ta tête. Est-ce nécessaire de s'expliquer ? Est-ce que 24 heures d'absence se justifient ? Tu étais ailleurs, loin et fatigué. Il fronce les sourcils. Tu te dis que tu n'as que faire de son pardon. Un pardon lâche, un pardon stupide, un pardon rempli de stupidité. À tes yeux, il représente en fin de compte tout ce que tu as toujours détesté. son costume tiré à quatre épingles, son air supérieur, tu as envie de vomir. Il commence à se rapprocher de toi, et tu serres les poings. Tu serres les poings comme si tu te préparais à le défigurer, son sourire. Tu te rappelles, quand vous aviez acheté ensemble ce sac de voyage, le vendeur avait vanté les mérites de ce sac en toile multifonction. Parfait pour le camping, avait expliqué le vendeur en polo bleu. Il avance d'un pas. Machinalement, tu regardes le paquet d'allumettes. Un feu de joie. Voilà ce qui manquait cruellement à tes souvenirs. Un feu de joie, gigantesque, monstrueux, qui pourrait brûler l'intégralité des forêts de ce monde. Il avance d'un pas, ses yeux bleus te fixent maintenant. Une mèche tombe devant tes yeux que tu replaces nerveusement derrière ton oreille. Un pas encore. Tu te mets à reculer maintenant. Tu te rappelles ces soirées passées à ne rien faire, devant la télévision, les images qui se succédaient, sans intérêt, blottis contre lui, à écouter le silence du salon. Le jeu des questions-réponses qui vous amusait tant. La lumière bleue de l'écran qui se projetait dans toute la pièce. Il était trop tard maintenant. Tu pousses un léger soupir et repenses à hier.
Podiaout, ficelle, podiaout, ficelle, podiaout.
Voilà, c'est fini. Je tiens à remercier Paul, Émilie, Éléonore, Gauthier pour leur participation à l'écriture de ce texte. Sans oublier le musicien de cet épisode, qui cette fois-ci n'était autre que James Vanderbeek. À la prochaine!